Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'échange intellectuel et de croisement des perspectives. Imaginez la scène. Nous sommes le 23 juillet 2009, en plein jour d'élection présidentielle au Kirghizistan. Les bureaux de vote sont ouverts, les électeurs font la queue, et soudain, à la mi-journée, le principal candidat de l'opposition unie, Almazbek Atambayev, annonce qu'il se retire.
En plein milieu du vote ?
Exactement. Il dénonce des fraudes massives et il rentre chez lui, ce qui court-circuite totalement le déroulement du scrutin.
Et pourtant, quelques heures plus tard, le président sortant, Kurmanbek Bakiev, s'attribue quand même une victoire écrasante. On parle de 76% des voix officielles, ce qui est gigantesque.
C'est énorme, oui.
Mais c'est un triomphe de façade, en fait. Un triomphe qui a paradoxalement signé son arrêt de mort politique peu de temps après.
Oui, et c'est vraiment ce qui rend cet événement historique fascinant. Moi, je suis convaincu que cette crise et la révolution qui a suivi en 2010, c'est le moment où le Kirghizistan a enfin brisé le moule autoritaire post-soviétique.
Ah, vous pensez vraiment que...
Oui, pour moi, c'est le point de départ d'une véritable maturation démocratique. C'est une exception absolue en Asie centrale.
Je suis un peu moins convaincue par votre optimisme, je l'avoue. Quand on observe la mécanique profonde de ce pays, cet épisode ressemble moins à une rupture fondatrice qu'à un énième changement de garde.
Un simple changement de garde ?
Voilà. C'est surtout symptomatique d'une boucle tragique, très répétitive, de lutte de clans.
Mais attendez, regardez l'impact stratégique du retrait d'Atambayev. Il n'a pas simplement protesté ou boycotté avant l'élection.
C'est vrai, le timing était particulier.
En débranchant la machine au moment même où les urnes se remplissaient de faux bulletins, il a prouvé que ce n'était pas un processus démocratique. C'était un simple accessoire théâtral pour le régime. Et ça a rendu l'effondrement de Bakiev inévitable au printemps 2010, ouvrant la voie à un régime parlementaire totalement inédit dans la région.
Le geste politique était brillant pour exposer la fraude, ça je vous l'accorde tout à fait.
N'est-ce pas ?
Mais c'est prêter beaucoup de vertus institutionnelles à une manœuvre qui s'inscrit au fond dans un cycle de violence. N'oublions pas l'histoire de Bakiev lui-même.
Oui, la révolution de 2005.
Exactement, la révolution des tulipes. Il avait lui-même chassé le président Akaïev en dénonçant exactement les mêmes mots, c'est-à-dire l'autoritarisme et la corruption. Et qu'a-t-il fait une fois au pouvoir ?
Il a déçu, c'est certain.
Il a reproduit le système à l'identique. Il a muselé la presse, il a placé son fils Maxime à la tête de l'économie nationale. Donc, ces 76% de 2009, c'est pas le catalyseur d'une démocratie naissante. C'est juste le moment où l'élastique de la tolérance populaire a craqué.
Je comprends votre point. Mais le référendum constitutionnel de juin 2010 a justement changé les règles du jeu pour empêcher ce retour en arrière.
Sur le papier, oui.
Mais en passant à un régime parlementaire, la nation a vraiment institutionnalisé le partage du pouvoir. Ce n'était plus seulement une colère populaire, c'était une refonte de l'État pour interdire physiquement la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul clan.
Sauf qu'un bout de papier, même si on l'appelle constitution, ça ne pèse rien face aux réalités socio-économiques. Vous parlez de modèle parlementaire, mais le pouvoir au Kirghizistan repose sur de puissants réseaux de solidarité régionaux, les clans.
Les dynamiques de clans sont fortes, oui.
Elles sont centrales. Ces groupes contrôlent l'accès aux ressources locales. Et modifier la constitution n'a absolument pas démantelé ces réseaux. La preuve absolue de cet échec, c'est Atambayev lui-même. L'architecte de ce boycott de 2009 est devenu président par les urnes, nous sommes d'accord. Mais savez-vous comment il a fini, après la nouvelle révolution d'octobre 2020 ?
Eh bien, il a fini derrière les barreaux.
C'est ça. L'homme censé incarner ce nouveau modèle parlementaire finit en prison, renversé par la même mécanique de rue. Pour moi, ce n'est pas du tout le signe d'un état de droit. C'est la preuve que les clans éjectent les acteurs quand leurs intérêts sont menacés, sans jamais se soumettre aux nouvelles lois.
C'est vrai. Le destin d'Atambayev souligne une fragilité extrême des institutions, je vous le concède. Mais je pense que vous sous-estimez ce que cette mécanique de rue signifie d'un point de vue démocratique.
Comment ça ?
Bakiev est aujourd'hui exilé, il est condamné par contumace. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a imposé une hausse brutale des tarifs du chauffage à l'hiver 2009 pour renflouer les caisses contrôlées par son fils, la population n'a pas accepté d'avoir froid en silence.
Oui, la réaction populaire a été vive.
Et c'est essentiel. La société civile kirghize refuse viscéralement de subir une dictature absolue. Même si l'État vacille, ce refus populaire d'accepter l'inacceptable, c'est un garde-fou d'une puissance rare dans ce voisinage géographique.
Une société civile réactive, assurément. Mais, enfin, une révolution n'est pas une institution. Faire tomber un président parce que la corruption assèche vos portefeuilles, c'est un réflexe de survie.
C'est un point de départ.
Peut-être. Mais construire un État capable de prévenir ses dérives pacifiquement, c'est tout autre chose. Le séisme de 2009 a montré que le pouvoir pouvait s'effondrer en un instant. Mais il n'a pas fourni la recette pour en bâtir un nouveau qui tienne debout sur la durée.
Eh bien, nous sommes au moins d'accord sur la puissance révélatrice de ce retrait en plein milieu de l'été 2009. Il a mis à nu l'illusion du contrôle autoritaire au Kirghizistan.
Tout à fait. C'est là tout le paradoxe de cette histoire. S'asseoir à la table pour changer les joueurs est une chose, mais s'accorder véritablement sur de nouvelles règles en est une autre.
Une réflexion qui invite vraiment chacun à observer de près la réalité de ce modèle. La question reste ouverte de savoir si c'est l'enfantement d'une démocratie ou une instabilité chronique. C'est à vous de tirer vos propres conclusions sur cette expérience politique singulière. À très bientôt pour un nouvel échange.